Ok, on va commencer, on va continuer, c'est-à-dire la leçon 6. Et ça se trouve être la deuxième partie de l'œuvre de la Providence dans nos vies avant notre conversion. Alors, on avait vu dans la semaine dernière que la Providence agissait déjà dès le sein maternel, parce qu'on avait regardé que le psaume 139 nous disait que l'Éternel nous avait personnellement tissés. Et on avait regardé un petit peu le deuxième point, la providence qui agissait à la naissance et aussi dans notre éducation. Le Seigneur avait choisi lui-même personnellement le choix de la place et de l'époque de notre naissance, c'est-à-dire le siècle, l'endroit, le pays. Et c'est des circonstances que lui-même avait choisies. Et on avait regardé aussi que l'Éternel avait même donner à chacun l'éducation, une certaine éducation qui diffère d'un individu à l'autre, mais qui est quand même permise par le Seigneur. On avait regardé plusieurs versets à cet effet-là et on avait un bout de fait. Mais on va quand même regarder encore cette même idée-là dans 1 Samuel, au chapitre 1, les versets 10 et 11. C'est de se rappeler que c'est une miséricorde que d'avoir des parents qui ont prié pour vous avant même votre naissance ou durant la vie de leurs enfants. Je trouvais ça, dimanche dernier, Lucie me partageait qu'elle avait parlé avec Sylvie, puis que Sylvie, elle avait prié pour sa fille, Josiane, pour qu'elle trouve un bon mari chrétien au moment même de sa naissance, puis qu'elle n'a jamais arrêté de prier pour ça. Je trouve ça beau parce que ça illustre ce qu'on est en train de dire, que des parents qui prient pour les enfants, pour des choses aussi précises qu'avoir un bon mari plus tard, l'enfant ne s'en rend pas compte, mais c'est une bénédiction énorme qu'il reçoit. Là. Parce que l'Éternel est à l'écoute de ces choses-là. Et un jour, on verra peut-être comment Dieu a répondu à cette prière-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça dit dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 10 et 11. « Elle, donc, ayant le cœur plein d'amertume, pria l'Éternel en pleurant abondamment. Et elle fit un vœu, en disant, « L'Éternel des armées, si tu regardes attentivement l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. » Alors, on se rappelle que le passage, c'est l'endroit où la mère de Samuel prie pour avoir un enfant mâle et qu'elle dit que si tu me le donnes, je vais te le donner pour qu'il devienne un serviteur. Alors, même Samuel profitait de la prière de sa mère parce que Dieu, en l'exaucant, elle l'a élevé pour qu'il devienne un serviteur. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il y avait l'exemple aussi de Job, dans le chapitre 1, au verset 5, qui priait constamment pour ses enfants. Constamment. Ça dit au verset 5, « Puis quand le tour des jours de leur festin était achevé, Job envoyait vers eux et les sanctifiait, et se levant de bon matin, il offrait des holocaustes selon le nombre de ses enfants. Car Job disait, « Peut-être que mes enfants auront péché et qu'ils auront blasphémé contre Dieu dans leur cœur. » Et Job en usait toujours ainsi. Alors, on voit l'exemple d'un père qui avait peur que ses enfants pêchent et qui intercédait auprès de l'Éternel pour que l'Éternel, il demandait pardon même pour les péchés de ses enfants. On a aussi l'exemple dans 1 Chronique au chapitre 28, les versets 8 et 9, concernant le devoir des parents de donner la connaissance spirituelle à leurs enfants. Ça dit dans les versets 8, « Maintenant donc je vous somme en la présence de tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel et devant notre Dieu qui l'entend, que vous ayez à garder et à rechercher diligemment tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays, et que vous le fassiez hériter à vos enfants, après vous, à jamais. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le avec un cœur droit et une bonne volonté, car l'Éternel sonde tous les cœurs et connaît toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver à toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Alors, le devoir des parents d'instruire leurs enfants dans la connaissance de Dieu. Dans Galates, au chapitre 4, au verset 19, on a vraiment l'idée du privilège d'être instruit par l'Église sur Christ. Ça dit, dans le verset 19, « Mes petits-enfants, pour lesquels, enfantés, je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors, quelque part, former Christ en une personne, ce n'est pas le travail d'une journée, deux jours, c'est le travail de toute une vie d'Église. Donc, Christ se forme en une personne par le fait qu'il assiste aux assemblées, qu'il entend les enseignements, qu'il lise la Bible lui-même, et qu'il fait des lectures personnelles, qu'il étudie personnellement. Et à quelque part, la personne de Christ finit par apparaître dans ton esprit de façon beaucoup plus précise qu'avant. Philippiens, au chapitre 4, et versets 8 et 9, nous parle du devoir et de l'influence qu'on donne un bon exemple à ceux qui nous entourent et à nos enfants. Ça dit dans le verset 8, « Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, toutes celles où il y a quelques vertus et quelques louanges, pensez à ces choses. » Car aussi vous les avez apprises, reçues, entendues et vues en moi. Faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Alors c'est vraiment, pour les parents, c'est vraiment une importante point. Pour les parents, dans le fond, des fois nos enfants sont loin de nous. On n'est plus à l'âge qu'on a des enfants chez nous. Mais on est quand même toujours un exemple pour les gens qui nous regardent vivre. Alors quelque part, on a tous une influence. Et plus on va vivre près du Seigneur, plus notre influence va être grande. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 1, ça développe vraiment l'idée que la vie des parents, c'est une copie pour les enfants. Parce que Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, plus un enfant va voir ses parents être pur, être proche du Seigneur, plus un enfant va voir ses parents prier, plus un enfant va voir la fidélité de ses parents aller au culte, etc., etc., l'influence est énorme. Comme quand Paul dit « Soyez mes imitateurs », est-ce que quelqu'un d'entre nous qui serait assez brave pour dire à d'autres chrétiens « Soyez mes imitateurs » pour qu'on puisse dire ça à quelqu'un, ça veut dire qu'on mène une vie chrétienne extrêmement sérieuse et extrêmement sanctifiée. C'est beaucoup de dire à d'autres chrétiens, « Soyez mes imitateurs. » C'est beaucoup. Dans Deutéronome, au chapitre 6, versets 5 à 7, ça nous parle de la grave responsabilité d'instruire nos enfants. Alors, ça dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Autrement dit, la grave responsabilité d'instruire nos enfants. Quand on parle, c'est beaucoup là, je pense qu'on ne réalise pas ce qu'il est en train de dire. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce qu'on aime Dieu à ce niveau-là? C'est à nous à répondre. Demandons à Dieu de nous sonder pour savoir si c'est à ce niveau-là qu'on l'aime. Je vous laisse la réponse. Je vous laisse répondre vous-même. Le troisième point qu'on va regarder, c'est que le Seigneur, dans sa providence, agissait aussi dans les emplois qu'on a eus au cours de nos vies. Le Seigneur nous a dirigés de manière à ce que nous ne tombions pas dans le dangereux piège de l'oisiveté et de la paresse. Par exemple, Ça dit dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 48 et 49. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, que Sodome, ta sœur, elle ni les villes de son ressort n'ont point fait comme tu as fait, toi et les villes de ton ressort. Voici, ça a été l'iniquité de Sodome, ta sœur, l'orgueil, l'abondance de pain et une molle oisiveté. Elle a eu de quoi, elle et les villes de son ressort, mais elle n'a point assisté l'affligé et le pauvre. » Autrement dit, l'idée principale, c'est que quand quelqu'un est dans l'oisiveté, dans la paresse, ça finit toujours par avoir un effet très grave sur sa morale, la moralité, sa vie morale. Parce qu'on parle de Sodome et Gomorre, puis le Seigneur il dit que la principale source, pourquoi ils sont devenus comme ça, c'est l'oisiveté et l'abondance du pain. Autrement dit, quand quelqu'un est rassasié, puis qu'en plus, il fait rien, comme on dit, dans l'oisiveté et la paresse, c'est sûr qu'il s'en va directement. Il a la tendance à s'enfoncer de plus en plus dans le péché. On a aussi dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 11 et 12, « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 27, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 11 et 12, « Nous apprenons cependant qu'il y en a quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Alors, quand le Seigneur permet dans la vie d'un individu qu'il y ait une continuité dans le travail, c'est une bénédiction. Et le Seigneur a permis ça dans beaucoup de vies de beaucoup de chrétiens. Des emplois aussi de nature légale et adaptés un petit peu à leur constitution. Alors, parce qu'on sait qu'il y a certains emplois qui sont carrément dominés par le péché. Si tu travailles dans certains milieux, des fois on appelle ça un travail, mais des fois c'est plus un milieu de grand péché que d'autres choses. Quand le Seigneur permet qu'on travaille dans un milieu honnête, c'est une bénédiction. Acte 19, versets 24 à 27. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que votre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits à main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Alors les emplois honnêtes qui demandent moins d'efforts que les autres sont des témoignages des providences de Dieu à l'égard de ceux qui en sont les bénéficiaires. Il arrive que la Providence réserve des emplois que ni l'enfant ni les parents n'ont désiré ou planifié. C'est la Providence qui a choisi. Par exemple, on voit dans Amos, au chapitre 7, versets 14 et 15, Amos répondit à Amatia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. » Voyez-vous, c'était un berger. Le Seigneur dit, sors de là, moi je veux que tu deviennes un prophète. Voyez-vous, c'est l'Éternel qui a choisi son métier. L'Éternel qui a choisi la chose qu'il se devait de faire. Psaume 78, versets 70 et 71. où on parle de David aussi, que le Seigneur avait choisi, qui était lui aussi un berger. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les troupeaux qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Dieu prend une personne qui s'occupe des brebis et il le monte à roi d'Israël. Imaginez-vous le fossé, la distance qui peut séparer un homme qui est berger, puis que quelques temps après, Dieu lui fait de lui le roi d'Israël. C'est l'Éternel qui l'appelle. On a aussi l'exemple de Pierre et de André, qui étaient des pêcheurs. Alors, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Alors, il était pêcheur, et le Seigneur en a fait des apôtres. Quelque part, on voit que le Seigneur participe beaucoup au choix des choses qu'on fait dans la vie. Job, chapitre 1, verset 10, « Dieu va protéger nos biens et va bénir aussi nos vies. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Autrement dit, Satan se servait de ça. On sait bien, il te sert parce que tu le bénis, parce qu'il n'y a rien dans sa vie qui ne va pas bien. Puis là, on sait le reste de l'histoire où il a dit « Laisse-moi lui enlever ses biens, laisse-moi enlever des personnes de sa vie, laisse-moi faire d'autres choses. » Et à quelque part, tu verras qu'il te maudira en face. On sait que quand on se rend jusqu'au bout de l'histoire, c'est pas ça qui est arrivé, Job en est sorti victorieux malgré des grandes difficultés. Alors, quand Dieu permet qu'on a du travail dans nos vies, comme on peut lire dans Ecclésiaste au chapitre 5, versets 12 et 13, Dieu rend le sommeil du travailleur doux, comme ça dit dans le verset 12. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Hébreux chapitre 13, verset 5. Alors, ça nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Psaume 37, verset 16 à 20. « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils se sont rassasiés au jour de la famine, mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent et s'évanouissent en fumée. » Dans Romains, chapitre 12, verset 11, le Seigneur nous donne le commandement d'agir avec ferveur dans notre emploi. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 à 10, où ça nous parle d'un avertissement qui est sévère. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Deutéronome, chapitre 8, versets 17 et 18. « Ça, Ça, c'est important à réaliser ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent, quand ils ont réussi, que c'est uniquement par leur talent, par leur force, par leur intelligence. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Deutéronome 8, versets 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Autrement dit, le Seigneur est en train de rappeler à l'homme, pense pas que tout ce qui t'arrive, c'est juste par ta force, puis ton intelligence, puis ta sagesse. C'est Dieu qui donne, qui donnera la force, comme ça dit dans le verset 18. Et on va terminer avec le psaume 37, les versets 3 à 7. Alors, on se doit de nous confier constamment en Dieu. Alors, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Car l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors, quelques applications, j'en ai trois, qu'on peut tirer de l'ensemble de ces deux leçons-là, celui de la semaine dernière et celui de cette semaine. La première, je dirais, adorons l'Éternel pour ses merveilleuses providences envers nous, dès le ventre de notre mère. Le fait que nous soyons si étonnamment constitués, comme ça dit dans le psaume 139, qu'on ait une santé, qu'on ait certaines caractéristiques physiques et intellectuelles, qu'on ait des talents, tout cela, ce sont des dons de l'Éternel, pour lesquels on se doit de lui rendre grâce et de le remercier. Deuxième application, louons le Seigneur pour toutes les circonstances de notre naissance et de notre éducation. Le divin chef d'orchestre travaille avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Le Seigneur tricote nos vies dans tous les événements de nos vies, sans exception. Et ça a toujours un but. Pour les chrétiens, c'est toujours pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ et pour nous améliorer, nous purifier, nous sanctifier. Et troisième et dernière application, la main de notre grand Dieu veillait à nous éviter de tomber dans le piège de l'oisiveté. Il nous a conduits dans le choix de nos métiers et de nos professions. Cette prise de conscience devrait nous amener à la gratitude, au contentement et au zèle dans notre travail. Que l'Éternel soit loué pour ses innombrables providences miséricordieuses avant notre conversion. Amen.